Bonjour à chacune et chacun. J'ai bien aimé ce dernier chant, dans tes bras d'amour, tout près de ton cœur, tout près du cœur de Dieu. Et c'est ce que je vous invite de faire ce matin encore pendant ce message. J'ai eu à cœur de partager le sujet du pardon. Le thème du pardon peut, c'est vrai, à premier abord, sembler un sujet lourd, un sujet difficile. Cependant, si on y regarde de plus près, c'est vrai que la question du pardon, c'est le message central de l'Évangile. Le pardon, par contre, il n'est pas naturel pour l'homme. Le pardon vient de Dieu, du cœur de Dieu. Le pardon est une manifestation de la grâce de Dieu, un débordement de son amour. Nous allons le voir, le pardon est aussi intimement lié à l'amour, l'amour justement qui vient de Dieu et qui est manifesté par Jésus-Christ. Le sujet du pardon est aussi perçu parfois comme un sujet négatif, quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Nous allons voir que le pardon, il nous ouvre des perspectives extrêmement positives. Alors concrètement, quand et comment est-ce que le pardon se manifeste? Il est des situations dans nos vies qui laissent des empreintes, plus que d'autres. Ce sont les situations dans lesquelles on s'est senti trahi, meurtri, blessé, humilié, calomnié, rejeté, méprisé, injustement accusé, etc. Ces empreintes sont généralement douloureuses, parfois très douloureuses. Y repenser fait aussi mal. Parfois, la douleur est si vive que la haine et le ressentiment s'en mêlent. Haine ou colère envers celui ou celle qui nous a blessés. Amertume, sentiment d'injustice vers les coupables. Qui ne s'est jamais senti offensé? Tu as besoin d'être guéri de ces blessures intérieures. Et ce processus de guérison, il passe obligatoirement par le pardon. Maintenant, j'aimerais qu'on voit aussi les bienfaits du pardon. Quelques mots juste. On le verra plus en détail tout à l'heure. Le pardon, c'est aussi une source de libération. Il nous libère du ressentiment qui peut nous ronger. Mais il nous libère aussi des paroles ou des actions négatives dont nous avons pu faire l'objet. Une définition du pardon. C'est pas forcément simple. Moi, je vous invite de voir une définition du pardon. Que Dieu nous offre. Les différents mots qui sont utilisés dans la Bible pour le pardon sont en lien avec la question du péché, généralement. Le péché qui nous empêche notre relation avec Dieu. Il est donc question ici du pardon de Dieu en rapport à notre état de pécheur. Ces différents mots utilisés nous montrent plusieurs nuances et aussi une certaine progression dans la façon comment le pardon de Dieu se manifeste pour nous qui sommes pécheurs. Il est tout d'abord question d'éloigner ce péché, de le faire disparaître, l'effacer, nous en libérer et nous affranchir de lui. C'est ce que nous voyons au psaume 103. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de nous nos transgressions. Deuxièmement, il est aussi question de nous purifier du péché. C'est l'étape suivante. Nous rendre propres. C'est ce que nous voyons en 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Encore un pas plus loin, il est ensuite question de nous justifier. C'est-à-dire que Dieu nous voit justes, innocents, et on voit cela en Romains 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pardon ensuite nous amène tout naturellement à la réconciliation, c'est-à-dire le rétablissement des relations entre Dieu et nous. Romains 5, donc quelques versets plus bas, les versets 9 et 10. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Pour Dieu, le pardon comprend les notions de disparaître, de nous affranchir du péché, nous rendre purs, nous justifier et enfin nous réconcilier avec lui. Chacune de ces quatre étapes nous vient de Dieu et nous la recevons de sa main. Le pardon de Dieu est offert à tous les hommes. Il devient effectif pour chacun de ceux qui l'acceptent, se l'approprient et s'approchent de Dieu en reconnaissant leur éloignement de lui par le péché qui les habite. Le fait de vivre au bénéfice du pardon de Dieu me permet une nouvelle relation avec mon Dieu, une relation de père à enfant, car la réconciliation est complète. Dieu a fait de moi son enfant, et cette nouvelle relation est basée bien sûr sur l'amour et la proximité avec mon Dieu. C'est pour ça que j'aimais bien le dernier chant là qu'on a chanté pendant le temps de louange. Maintenant, qu'est-ce que le pardon représente pour nous? Alors tout d'abord, je dois dire, c'est un ordre. Et pendre dans les dents. Dieu nous demande de pardonner. Il ne nous laisse pas le choix. C'est un ordre clair qu'on trouve dans plein d'endroits dans la Bible. Et je vous propose de lire un verset dans Matthieu 6, deux versets, même les versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Comment comprendre cette parole de Jésus qui, à première lecture, peut paraître incompréhensible, en tout cas difficile à appliquer? Pour Jésus, refuser de pardonner, c'est comme nier notre propre état de pécheur, et donc notre propre besoin de la grâce divine. Nier notre propre état de pécheur et donc notre propre besoin de la grâce divine. Comment comprendre cela? Moi, je vous invite à lire une parabole à Matthieu 18. Matthieu 18, c'est bon, un petit passage, une parabole qui est très frappante, que vous connaissez certainement. C'est pourquoi, donc c'est Jésus qui la donne, cette parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Pas 10 000 pièces, 10 000 sacs pleines pièces d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de sa dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Je ne sais pas s'il avait de bonnes notions de calcul. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Pas un morceau de la dette, il lui a remis toute la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est vrai que le pardon que nous avons reçu de Dieu est immense, incalculable, parce qu'il recouvre une dette que nous ne pouvons pas payer. C'est la dette de notre péché, de notre nature de pécheur qui nous condamne à une séparation éternelle d'avec Dieu. Et aucun de nos efforts, aucune de nos capacités ne nous permet d'être graciés par Dieu. Seul le pardon de Dieu peut effacer notre dette. D'autre part, le fait de pardonner n'est aucun cas un mérite qui nous permette d'être pardonnés à notre tour. Cependant, le pardon que nous accordons à notre prochain est fondé sur notre compréhension de ce que le pardon divin représente pour nous de façon personnelle. Ne pas pardonner, c'est donc nous placer au-dessus de la loi d'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. En fait, on peut pardonner parce qu'on a d'abord été pardonné par Dieu. De la même façon que l'on peut aimer parce qu'on a d'abord été aimé par Dieu. Et là, je vous lis quelques versets dans Colossiens 3, les versets 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Le pardon est donc un ordre, c'est vrai, mais un ordre qui doit être accompli avec le cœur, un ordre qui doit être accompli avec notre amour. Sans amour, c'est difficile de pardonner. Un autre point aussi que je voulais partager avec vous, c'est que le pardon, c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu. Et en fait, à ce titre-là, le pardon, il est plus qu'un ordre. Il fait partie de ce que Dieu désire que nous vivions entre nous, au même titre que l'amour et l'unité. Oui, la pratique du pardon fait partie du plan de Dieu dans la façon comment nous avons à gérer nos relations, au même titre que l'amour ou l'unité. C'est comme si le pardon et l'amour sont des conditions nécessaires afin que l'unité se manifeste et se développe entre nous. Comme si le pardon et l'amour sont des conditions nécessaires afin que l'unité se développe entre nous. Le pardon et l'amour sont intimement liés. C'est Martin Luther King qui disait « Il faut développer et entretenir la capacité à pardonner. Celui qui en est dépourvu est dépourvu de la capacité d'aimer. » Le pardon et l'amour sont liés. Ils sont liés dans le sens où on ne peut pas aimer sans pardon et on ne peut pas pardonner sans amour. On voit dans Jean 13, c'est Jésus qui parle, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On remarque que Christ donne le commandement de s'aimer, mais de s'aimer comme lui nous aime. Et comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste-t-il pour nous? 1 Jean 4, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et en Jean 17, vous savez, le chapitre de Jean 17, c'est la dernière prière de Jésus avant la Passion. Et dans la dernière partie de cette prière, Jésus prie, donc juste avant d'être arrêté, Jésus prie pour ses disciples et il prie aussi pour nous. Et on lit juste 2-3 versets, depuis le verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, donc pour les disciples, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Donc là, c'est pour nous. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et Jésus termine sa prière au verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Le pardon et l'amour entraînent l'unité. Et l'unité vécue dans l'amour et le pardon ouvre les yeux et ouvre les cœurs de ceux qui nous voient vivre. C'est ça que nous veut dire ce passage pour nous. Alors maintenant, une question qui n'est pas forcément simple, mais surtout une question pour laquelle il peut y avoir des avis différents. Peut-on pardonner ? Est-ce qu'on peut pardonner si quelqu'un ne nous demande pas pardon ? C'est-à-dire si quelqu'un nous a offensés, et puis soit qu'il ne s'en est même pas rendu compte, soit qu'il n'en est pas conscient, soit qu'il ne veut pas nous demander pardon, est-ce qu'on peut nous le pardonner ? Cette question est brûlante pour beaucoup de personnes. La réponse a des conséquences quand même. On pourrait penser que si le coupable ne demande pas pardon et ne se repent pas, aucun pardon ne peut être accordé et aucune réconciliation n'est possible. La relation ne peut pas reprendre même si la victime désire pardonner de tout cœur à son offenseur, comme l'avait fait Jésus sur la croix. Pourtant, le pardon libère. Le pardon de la personne offensée libère l'offenseur de la chaîne que représente l'offense. En pardonnant, nous libérons aussi l'action du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est un esprit de pardon. Et plus nous pardonnons, plus le Saint-Esprit agira en nous et autour de nous, et y compris dans le cœur et dans la vie de l'offenseur. Et son action se manifeste dès que nous commençons à pardonner. C'est intéressant parce que Nicolas nous a passé une petite diapo avec des pas dans le sable, et puis une parole, et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était une parole de Corrie ten Boom. Et j'ai passablement lu, en tout cas, un de ses bouquins en préparant le message. Et c'est vrai qu'elle, pour avoir vécu les camps de concentration, pour avoir vécu des choses extrêmement dures et violentes, elle a réussi à pardonner à des gens qui ne lui ont jamais demandé pardon. Un autre exemple, Saul de Tarse. Saul de Tarse a assisté à la lapidation d'Étienne. Et quelle est la prière qu'Étienne a faite lorsqu'il était en train de mourir, lorsqu'il recevait les cailloux, lorsqu'il était lapidé? Étienne a prié et a dit « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Étienne, en faisant cela, il pardonne à ses bourreaux. Il pardonne donc aussi à Saul de Tarse. Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, n'a pas été lié par sa participation à ce crime. C'est comme si le fait que Étienne l'ait pardonné, le déliait de cet acte qu'il a soutenu. Nous lisons en Matthieu 18, au verset 18, c'est facile pour se rappeler, Matthieu 18, 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Oui, on peut pardonner, même à ceux qui ne nous demandent pas pardon, parce que le pardon est une puissance qui libère. Une puissance qui libère aussi l'action du Saint-Esprit afin que les cœurs les plus durs puissent être touchés. Puis je vous invite maintenant à voir un exemple un petit peu plus long, un exemple un peu plus concret, que l'on connaît, je pense, assez bien. C'est l'exemple de Joseph. L'exemple du pardon de Joseph à ses frères. Joseph a vécu une injustice extrêmement violente de la part de ses frères, et lorsque le moment des retrouvailles est arrivé, et donc le moment du pardon, Joseph a fait preuve de beaucoup d'amour, en même temps beaucoup de sagesse. Joseph a grandi dans un contexte familial difficile. On découvre que Jacob avait 4 femmes et qu'il aimait Rachel, la mère de Joseph, plus que les autres. Sympa l'ambiance, hein. En plus, il nous est dit que Joseph rapporte à Jacob les mauvais propos de ses frères, en fait de ses demi-frères. Ce contexte envenime les relations entre eux à tel point que les frères de Joseph étaient incapables de lui parler sans agressivité. Ah, ça ne devait pas être triste, hein. Après cela, Joseph a fait 2 songes, dans lesquels il est, lui, le plus jeune fils, clairement dans une position de supériorité de tous les membres de la famille. Et Joseph raconte naïvement ces 2 songes à toute sa famille. Je vous invite maintenant à lire le passage dans Genèse 37 de ce que Joseph a vécu de la part de ses frères. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël, donc Israël, c'est le deuxième nom de Jacob. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem ? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Ils le virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben était le frère aîné. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore, « Ne versez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Là, il faut dire aussi qu'en tant que fils aîné, il était aussi plus responsable que les autres. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. C'était un habit de grande valeur que son père lui avait donné parce qu'il l'aimait plus que les autres. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Tranquille, pas de problème. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Voilà donc ce que Joseph a subi de ses frères. Ensuite, pour avoir été honnête avec Potiphar, Joseph a été injustement accusé et il s'est retrouvé en prison. Quelques années après, Pharaon a fait des songes que personne ne pouvait expliquer. C'est à ce moment-là qu'on s'est souvenu de Joseph qui a été conduit devant Pharaon et qui a expliqué le songe. Et le songe prédisait 7 années d'abondance agricole suivies de 7 années de famine. En plus d'expliquer le songe, Joseph a donné des conseils à Pharaon pour gérer les récoltes pendant les années d'abondance, de façon à ce qu'il y en ait assez pour les années de disette. Devant la sagesse de Joseph, Pharaon l'a établi intendant de tous ses biens et lui a confié la gestion des 14 années à venir. Joseph est devenu le bras droit de Pharaon. Joseph est devenu, excepté Pharaon, l'homme le plus puissant en Égypte. Lorsque la famine a touché la famille de Joseph en Canaan, Jacob, le père de Joseph, envoie 10 des frères de Joseph en Égypte pour acheter de la nourriture. Entre-temps, Jacob a eu un dernier enfant, un deuxième frère de Joseph, donc de la même mère que Joseph, qui s'appelait Benjamin. Et Jacob a gardé Benjamin, le jeune frère de Joseph, avec lui, parce qu'il avait peur de le perdre. Les frères de Joseph, donc, se présentent à lui sans savoir qui il est. À ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Joseph voulait trouver un lien d'amour avec ses frères. Et il a mis en place tout un stratagème avec des mises à l'épreuve de ses frères, des allers-retours en Canaan, pour faire venir Benjamin en Égypte et amener petit à petit ses frères à la reconnaissance de leurs fautes et à un changement d'attitude profond. Et c'est quand ce changement d'attitude a eu lieu que Joseph révèle à ses frères son identité. Il peut alors pardonner leurs fautes. Les conditions sont réunies pour que la faute soit pardonnée. Et on lit en Genèse 45, « Maintenant, c'est Joseph qui parle, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. » Joseph a vu que Dieu a changé le mal en bien. Il n'avait plus de haine envers ses frères. Il leur avait en fait déjà pardonné. L'histoire de Joseph nous montre, ça c'est un élément important, qu'entre le moment où Joseph a été vendu comme esclave et le moment où il est sorti de prison pour être présenté à Pharaon, Dieu a fait un immense travail dans son cœur. Ce travail divin s'est manifesté concrètement par son amour pour ses frères et sa capacité à les pardonner. Le fait que le mal projeté par les hommes fasse partie parfois des desseins de Dieu et même contribue au bien de son peuple, c'est une vérité. Mais en même temps, cela reste un mystère. La croix de Christ est le plus grand exemple de ces mystères. Nous sommes dans notre vie de tous les jours appelés à surmonter le mal par le bien. Lisons Romains 12. et voyons dans ses recommandations le mode de fonctionnement normal dans l'Église. Bien entendu, cela ne peut être vécu concrètement que par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Romains 12 et les versets 16 à 18. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et au verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. En d'autres mots, il nous est demandé, de par notre vie et notre attitude d'amour, de pardon et de sagesse, de changer le mal en bien. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et c'est encore Martin Luther King qui disait « Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. » Pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. Nous sommes donc appelés à vivre dans cette attitude permanente de pardon. Où en sommes-nous par rapport à la pratique du pardon, nous, chacun de façon individuelle, devant cette pratique de pardon, où est-ce qu'on en est? Par rapport à l'amour à vivre entre nous aussi, par rapport à l'unité que cela entraîne. J'ai envie de dire plutôt, où en sommes-nous dans notre relation personnelle avec notre Dieu, parce que c'est là la source du pardon et de l'amour. Dieu est pleinement amour, et on ne peut pas vivre et pratiquer l'amour et le pardon tels que Dieu les conçoit si nous ne vivons pas tout près du cœur de Dieu. Je vous invite à un moment de silence, de prière silencieuse, et je terminerai ce moment. Oui Seigneur, merci parce que tu es amour. Merci parce que ton amour t'a conduit à donner ton Fils afin de nous racheter de notre nature de pécheur. Merci Seigneur parce que tu m'as fait la grâce de plier le genou devant toi, de devenir ton enfant. Merci parce que tu désires le meilleur pour nous, tu désires que nous pratiquions l'amour qui vient de toi. L'amour qui donne, l'amour qui se donne. Fais de nous des serviteurs de paix qui, par la pratique du pardon et de l'amour qui nous unit, attire à toi ceux qui nous voient vivre. Sois loué, sois béni, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Amen. Ce matin, nous allons aussi partager la scène. Et c'est intéressant parce que ça s'enchaîne bien avec le thème du pardon. C'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11 « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Partager le pain et le jus de raisin, partager la scène, c'est annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, ou bien plutôt jusqu'à ce qu'il revienne. Nous annonçons donc que tous ceux qui s'approchent de Jésus-Christ en reconnaissant leur péché et en demandant pardon sont gratuitement justifiés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quel magnifique exemple de pardon que celui de notre Sauveur. Lui qui est pleinement Dieu, il s'est fait homme, homme parfait, pour prendre notre place et payer le prix de notre rachat. Alors je n'ai demandé à personne ce matin, donc si deux personnes veulent bien s'approcher pour faire la distribution. On arrive aux annonces, les annonces du programme. Demain, Femme Club, j'ai pas oublié, c'est bon. Donc à 14h, toujours chez Rebecca. Mardi, réunion de prière. Ben moi, je vous invite vraiment à y participer. La réunion de prière, c'est aussi un moyen de vivre l'amour entre nous, ensemble, pour prier notre Dieu. Jeudi, la chorale, à 20h30. Samedi, il y a plusieurs choses. Samedi après-midi, explosion de louanges. Alors, ça se déroule à Saint-Genis, à 17h. À 17h aussi, le groupe d'ados.
On va simplement changer l'heure.
OK. Donc, il y aura samedi, communication par email et téléphone. OK. Moi, je pensais que vous vouliez aller à explosion de louanges. Voilà. Justement. Et puis, samedi, le groupe de jeunes à 20h. Dimanche prochain, thé café à 9h30. Profitons de ces moments qui sont riches de communion fraternelle entre nous. Dimanche prochain, le culte, ici à 10h30. Le 15 mars, donc dans 3 semaines, on aura le culte en commun. Donc là, si une ou deux personnes veulent participer à l'encadrement des enfants pendant l'école du dimanche, vous êtes le bienvenu. C'est l'occasion aussi de faire quelque chose avec d'autres chrétiens, d'autres églises. C'est toujours très enrichissant de pouvoir faire des choses ensemble avec d'autres chrétiens. Des nouvelles des uns et des autres. Annelise ne va pas très fort, ça va un petit peu mieux maintenant. Elle a eu un gros rhume. Elle hésitait entre me dire si c'est un gros rhume ou une petite grippe. Mais elle était vraiment très mal jusque hier, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas là ce matin. Donc pensons à elle. C'est pas forcément simple quand elle en est compte et puis qu'on est retenu par des microbes. Pensons aussi à Eric qui va bien. Il a pu prendre des vacances avec Emmanuel et Rebecca. Mais continuons de penser qu'un mal à lui, c'est quand même pas fini. Pensons aussi à Audrey qui va passer mercredi des radios pour savoir comment les os se fortifient, savoir comment est-ce qu'elle peut ensuite, quelles consignes est-ce qu'elle peut avoir pour marcher plus ou moins. Pensons à elle aussi. Cette semaine, c'est une semaine où, pour laquelle on vous demande de prier pour la République centrafricaine. Vous savez, toutes les semaines, il y a un pays de la liste. La liste de l'index mondial de persécution. Alors la République centrafricaine est ici. C'est vraiment le centre de l'Afrique. Dans ce pays, c'est important de prier pour nos frères et sœurs chrétiens dans ce pays. 4,8 millions d'habitants. 3,1 millions de chrétiens, toutes dénominations confondues, pas forcément donc que des chrétiens comme nous, hein, mais quand même une forte proportion de chrétiens. C'est surprenant, hein, en plein milieu de l'Afrique. Par contre, dans ce pays, il y a un gouvernement de transition qui a pris le pouvoir avec une coalition armée qui s'appelle la SELECA. Et dans cette coalition armée, il y a plus de 80% de musulmans. Et c'est très dur parce qu'ils sont sans pitié. Donc vraiment, pensons à nos frères et sœurs en République centrafricaine. Ils ont besoin de nos prières. S'il n'y a rien d'autre à ajouter, je vous invite à vous lever. Oui ? Ah ben oui, j'ai oublié moi une chose, mais vous pouvez vous lever. J'ai mis derrière le paravent une affiche. Alors c'est rare qu'on fasse des annonces pour des choses qui ne concernent pas la vie de l'Église directement. Mais il se trouve que c'est quelqu'un que je connais bien, qui donne son témoignage donc le vendredi 6 mars, c'est à Douvaine, de l'autre côté du bout du lac. C'est donc un ami qui donne son témoignage par rapport au sujet de la prévention alcool. C'est un sujet qui n'est pas forcément simple, c'est aussi un sujet compliqué. Et il y a une soirée par rapport à cela. Donc si vous connaissez des gens qui sont concernés, si c'est un sujet qui vous intéresse, ben vous êtes les bienvenus. Il y a toute une série de personnes qui vont partager la soirée, dont Alain Charpillot, le responsable d'Horizon 9, des médecins, même le côté juridique sera représenté, etc. Voilà. Je vous lis encore deux versets pour clore notre culte. dans Hébreux, Hébreux 10, les versets 23-24. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, dans la paix de Dieu.